La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Si les travaux des économistes les plus intéressants nous éclairent sur les grands mécanismes macro ou microéconomiques, ce sont souvent les enquêtes des sociologues, des anthropologues ou des historiens qui nous permettent de prendre le recul nécessaire à la compréhension des phénomènes économiques dans toute leur ampleur, de mettre en évidence parfois de véritables révolutions demeurées quasi imperceptibles si l'on se contente de chausser les lunettes souvent grossissantes et parfois déformantes des analyses de plus en plus économétriques. Il en va ainsi de la dette, question politique bien trop importante pour être abandonnée aux seuls économistes. C'est ce que souligne l'économiste lui-même André Orléans dans une préface au livre que signe notre invité aujourd'hui, Benjamin Lemoine, à propos de la dette, l'ordre de la dette. Benjamin Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes chercheur au CNRS, à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, à Paris Dauphine, et vous publiez donc aux éditions La Découverte, l'ordre de la dette, une enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché. Alors, un économiste, certes hétérodoxe, salue votre travail en ouverture de ce livre, et c'est vrai que on y trouve des choses passionnantes pour qui veut comprendre ce qui est devenu un passage obligé du débat politique depuis peu, relativement, parce que d'ailleurs on mesure comment les choses ont évolué entre l'élection présidentielle de 2007 et celle de 2012 dans votre livre. Cette fameuse question de la dette qui nous contraint, qui nous oblige, qui fait qu'il n'y a pas de choix que de mener la politique économique sur laquelle se retrouvent à quelques nuances près les partis de gouvernement en France. Eh bien, votre travail d'enquête a consisté à comprendre comment nous en sommes tout simplement arrivés là, c'est-à-dire dans une situation où l'État français à une dette, comme d'ailleurs les autres États de l'Union européenne. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce que cette dette représente un poids important en pourcentage du PIB? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est une fatalité? Ce sont toutes ces questions auxquelles vous répondez en menant une enquête de sociologue, mais qui est aussi une enquête historique, parce que pour comprendre tout ça, il faut revenir dans les années 60, mais plutôt à partir des années 70, en fait, où tout ça s'accélère, progressivement d'ailleurs, parce que ça continuera de s'accélérer, dans les années 80, jusque aujourd'hui, on n'en a pas fini. Alors, quel est le point de départ de cette réflexion, Benjamin Lemoine?
Merci beaucoup. Le point de départ de cette réflexion, il part d'une enquête. C'est une enquête que j'ai menée il y a bien longtemps, maintenant en 2006. C'était à l'époque à l'occasion d'un master de sciences politiques, où je faisais une enquête dans les bureaux de l'administration des finances du ministère de l'Intérieur. Et qu'est-ce qui planait en permanence dans cette administration? C'était la contrainte de la dette, précisément. Les interlocuteurs que je rencontrais n'avaient de fait de dire « nous devons réformer le budget de l'État ». C'était la loi organique relative aux lois de finances à l'époque, c'était la nouvelle constitution budgétaire de l'État.
La fameuse LOLF.
La LOLF, absolument. Et cette LOLF, on devait la mettre en place à cause de la dette. C'était sans cesse le motif invoqué. Et de cette énigme, en quelque sorte, qui planait sur les acteurs, m'est venue l'envie de poursuivre dans le cadre d'une thèse de doctorat pour remonter le fil de cette contrainte, comme vous l'avez très bien explicité. Et cette contrainte, effectivement, la plupart du temps, elle est reléguée en termes explicatifs aux économistes. Et ce livre, comme André Orléans le suggère très pertinemment, invite à discuter ce grand partage entre économie et sociologie ou sciences politiques. Et la sociologie politique a des choses à dire sur la construction des faits économiques.
Surtout quand elle a, comme c'est le cas avec votre enquête, une dimension historique importante, parce que tout ça n'est pas né d'un coup de baguette magique, tout
Absolument.
Ça n'est pas né d'un complot non plus entre des acteurs, tout ça est le résultat d'un ensemble de décisions, de coordination de ces décisions. Ce n'est au fond, dites-vous, qu'impossible. Il y en aurait d'autres, mais c'est impossible qui est cristallisé, qui est solidifié historiquement aujourd'hui. Alors pour comprendre ça, il faut peut-être repartir du point de départ. La chose importante à comprendre s'agissant de la dette, c'est que elle est créé suite à la décision pour l'État de changer sa manière de se financer.
Absolument. Il y a une parenthèse dans l'histoire qui est vraiment curieuse, c'est celle de l'après-Seconde Guerre mondiale, où se sont mis en place des mécanismes qui aujourd'hui nous semblent totalement hétérodoxes, totalement originaux et une sorte d'imagination politique. Et effectivement, avant d'être pris dans cet étau de la dette publique, dans cet étau des taux d'intérêt, l'État disposait d'une palette, d'une pluralité de techniques de financement qui avait pour spécificité et particularité d'introduire une coordination institutionnelle institutionnel, comme vous le dites, entre ce qui relève de la monnaie, ce qui relève du crédit, ce qui relève aussi de la supervision des banques à l'époque et du financement de l'État. Et d'une certaine manière, le financement par emprunt, ce qui est aujourd'hui la version dominante, la technique dominante, n'était qu'une option parmi d'autres, comme vous le dites, impossible.
Et proportionnellement pas la plus importante en termes
absolument pas,
de somme.
C'est ça, vous avez raison. Et ça n'est que progressivement, à la suite d'expérimentations, on y va touche par touche. Là, vous avez aussi raison de le souligner, parce qu'aujourd'hui, dans le débat, généralement, la critique, c'est la loi de 1973. Comme si une seule loi, comme si on pouvait changer par décret.
Nous fait basculer dans un autre monde.
Ce n'est pas le cas. C'est un ensemble de petites décisions qui, progressivement, apportent un grand changement. Et effectivement, ce changement, c'est de démanteler cet appareil un peu original, un peu hétérodoxe, qui faisait que l'État se finançait autrement que par les
marchés. Alors, comment il se finançait, l'État, à l'époque? C'est-à-dire que l'État faisait en sorte que le trésor soit irrigué par tout un tas de mécanismes de financement qui étaient rendus possibles par la position particulière qu'occupe cet agent économique qui n'est pas comme les autres, qui a le monopole, on le sait, de la violence physique légitime, comme dirait Max Weber, mais aussi le monopole de la violence symbolique légitime, comme dirait Pierre Bourdieu, et puis un certain nombre de monopoles dans le domaine de l'économie jusqu'à ce moment-là, en quelque sorte.
Absolument. Le terme technique des acteurs de l'époque, c'était le circuit du trésor. Ce circuit du trésor, pour ne pas rentrer dans des complexités techniques, pour le résumer, on peut dire qu'il avait pour particularité d'encastrer l'argent, d'encastrer le crédit dans un réseau institutionnel, dans un réseau politique, d'une certaine manière. Et ce qui a changé, c'est précisément ça, c'est qu'aujourd'hui, l'État, lui, est encastré dans les marchés financiers. Et vous l'avez bien dit, d'un acteur qui, macroéconomique, qui supervisait l'économie, qui supervisait les banques, l'État est désormais passé comme un agent microéconomique, un emprunteur comme les autres, qui doit faire la preuve de son crédit en permanence. Donc c'est précisément cette bascule progressive qui fait qu'aujourd'hui, l'État vit dans cette contrainte permanente où il doit donner un certain nombre de gages aux créanciers, aux prêteurs, aux investisseurs, qui précédemment il contrôlait, afin de pouvoir financer ses dépenses courantes, ses dépenses sociales et d'une certaine manière la pérennité de cet état social, dans cet état providence dont nous sommes fiers souvent à juste titre.
Vous dites au fond on est passé d'un état mesurant à un état mesuré.
Absolument.
Au sens où il est mesuré, non pas modéré, mesuré, c'est-à-dire qu'il fait l'objet de mesures alors que c'est lui qui prenait autrefois les mesures.
Absolument. C'est là aussi une partie du travail qui fait vraiment écho à la sociologie de la quantification menée en France par Alain Desrosières. Et effectivement, lorsqu'on suit sur la base d'archives, lorsqu'on suit cette transformation progressive, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à l'après-guerre, avec ce circuit du trésor qui encastrait l'argent dans un réseau public, se développait un certain nombre d'outils pour mesurer, prévoir l'économie. Et c'était ces centres de calcul étaient localisés au sein de l'État. Et d'une certaine manière, au terme de cette transformation progressive, quelle est la fin de l'histoire? La fin de l'histoire... Pour l'instant.
La fin provisoire.
Non, certainement pas de fin d'histoire, mais en tout cas, la stabilisation de l'histoire aujourd'hui, c'est les agences de notation. Je veux dire, l'idéal type aujourd'hui des mesures, de ces actes qui étaient auparavant des actes d'État, de mesures de l'État, qui sont aujourd'hui externalisés par des acteurs privés, comme les agences de notation, c'est le terme de ce processus. À partir d'un moment où l'État est pris dans ce réseau de contraintes de marché, un certain nombre de centres de calcul extérieurs à l'État viennent le mesurer, viennent saisir les limites budgétaires de l'État, contrôler sa soutenabilité, la soutenabilité de sa dette. Cela va tout à fait de pair avec ce qui est désormais célèbre, les critères de Maastricht, les 3% de déficit et les 60% de dette publique. Tout ça fait partie de la batterie d'outils de mesure de l'État à la disposition des investisseurs internationaux qui désormais font des arbitrages, des choix, arbitrent entre certains types d'États qu'ils financeront à des taux d'intérêt plus ou moins élevés. En vertu de quoi? En vertu de la discipline, de l'autodiscipline que l'État s'applique à lui-même sur sa taille budgétaire et le contrôle de ses dépenses sociales, dans le présent, y compris dans le futur.
C'est ça qui fait qu'on, au fond, on considère désormais l'État comme un acteur économique parmi d'autres, non pas en surplomb, qui peut prendre le risque de passer pour un mauvais élève, comme on dit, s'agissant des notes de ces agences de notation. Toute cette terminologie est symptomatique de ces transformations. Mais le plus frappant, le plus intrigant aussi, quand on mène une enquête comme la vôtre, c'est de découvrir que cette transformation progressive est venue du sein du sein. Elle est venue de la direction du Trésor, elle est venue de ces gens qui avaient pour mission de service public de gérer le financement de l'État. Et ce sont eux qui ont, en quelque sorte, commencé de détricoter ces mécanismes pour les remplacer par ce financement sur les marchés financiers.
Absolument. Là, vous touchez au point décisif de l'ouvrage, c'est-à-dire que cette transformation structurelle, elle émane du cercle étroit de ce Saint des Saints. Effectivement, certains des acteurs me passent, c'est la trésorerie, c'est le sacro-saint, c'est le service régalien par excellence. Alors, ce qui est mystérieux, c'est comment s'est opéré ce changement. Et alors, j'ai déjà un peu dit, mais finalement, ce qui devient l'énigme explicative pour l'historien, c'est comment on a connu autre chose, hein, d'une certaine manière. Comment, de l'après-guerre jusqu'aux années 70, on a eu un système innovant. Pourquoi ? Parce que le long siècle du 19e siècle était un siècle libéral. L'administration du trésor, d'une certaine manière, a toujours été très orthodoxe. Mais il s'est passé, après la Seconde Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70, quelque chose d'inédit, d'une certaine manière. Et effectivement, la seconde énigme, c'était d'aller voir dans les archives. Là, j'ai eu un grand recours aux archives, mais aussi aux entretiens...
Oui, avec des acteurs voilà, qui ont joué un rôle très très important.
Des longs entretiens avec des anciens hauts fonctionnaires qui revenaient d'une certaine manière sur cette histoire qu'ils ont contribué à façonner.
Si on reprend oui, juste certains des acteurs, vous citez Rueff, il y a évidemment le rôle de hauts fonctionnaires au départ qui deviendront des responsables politiques par la suite, comme Valéry Giscard d'Estaing, mais il y a aussi, parce que c'est pas l'apanage de la droite au pouvoir, des gens qui jouent des rôles décisifs dans... au cours du premier septennat de François Mitterrand, oui, en particulier, et puis ça se poursuivra même avec le second, et notamment quelqu'un comme Pierre-Hébert Rigovoy.
Absolument. Oui, oui, ça aussi, c'est quelque chose d'assez paradoxal. Et là, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de différence droite-gauche sur ce sujet. C'est-à-dire que face au sujet monétaire et financier, il y a eu un alignement progressif de la droite et de la gauche sur les questions de dette publique. Pour le cas de Bérégovoy, il était tout à fait passionnant, puisque c'était quelqu'un qui représentait les classes populaires au sein du Parti Socialiste. Et d'une certaine manière, il a été plus royaliste que le roi en intériorisant totalement les normes légitimes et dominantes de cette direction du Trésor, orthodoxe et toujours à l'avant-garde des réformes libérales vis-à-vis de l'économie et du progressif désengagement de l'État vis-à-vis de l'économie ou du recentrement de l'État, pour parler plus précisément, vis-à-vis de l'économie. Et effectivement, au milieu des années 80, Pierre Bérégovoy, accompagné d'un haut fonctionnaire très important, Jean-Charles Naouri, qui est aujourd'hui PDG du groupe Casino, qui va d'une certaine manière fonctionner comme la boîte à outils hein, du politique. Et ça aussi, je pense que c'est une ligne un peu, c'est peut-être pas une loi sociologique, mais en tout cas un phénomène très important qui, je pense, se dégage de cette histoire. C'est le poids de cette administration vis-à-vis du politique, d'une certaine manière. Et c'est aussi ce qui explique l'alignement de la droite et de la gauche. C'est-à-dire que l'administration du Trésor prépare une série de réformes, balise la décision politique, et le politique s'en saisit d'une certaine manière, représente le volontarisme, mais un volontarisme qui porte sur une expertise déjà bien verrouillée d'une certaine manière.
Et c'est ça qui explique par exemple que quand François Hollande est élu en 2012, après avoir tenu le discours du Bourget où il dit « mon ennemi c'est la finance », bien, il prend la décision de ne pas remplacer avant un an et demi Ramon Fernandez qui est le directeur du Trésor. Par exemple, on sait qu'aux États-Unis il y a le mécanisme du spoil system où quand un président est élu, les gens à ce niveau de responsabilité dans l'administration changent parce qu'il s'agit de nommer des gens qui sont là pour mettre en place une politique sur la base duquel le nouveau président a été élu, ce qui est une loi démocratique assez logique après tout.
On a effectivement une continuité administrative, c'est vraiment un phénomène très important, et lorsque les personnes changent, vous avez raison de souligner qu'elles ne changent pas immédiatement, même quand les personnes changent, leurs idées restent d'une certaine manière et les pratiques continuent. Et effectivement, lorsqu'on fait l'inventaire des différents directeurs du Trésor, on voit que des personnages comme Michel Cantsu, Daniel Lebègue, qui étaient des personnes socialistes, des personnes engagés dans des cabinets socialistes, ont poursuivi des politiques tout à fait similaires sur ces questions d'endettement. Et pour revenir sur les années 80, ce qui se joue en fait, de très important, c'est qu'à l'époque, quand on regarde dans les archives, la gauche socialiste au pouvoir reçoit tout un tas de notes, d'expertises alternatives, originales. Et ces expertises, elles vont être triées sur le volet par la direction du Trésor, qui va les disqualifier comme étant fantaisistes, irréalistes, infaisables.
Des expertises qui viennent de qui ? D'économistes ?
Absolument. Alors, il y a un économiste qui s'appelle Tovi Gjebin qui va proposer à l'époque une loi. Dans cette proposition de loi, en fait, il est l'auteur. Il est d'une certaine manière la petite main de cette proposition de loi qui est portée par des députés gaullistes pour un retour de la souveraineté économique, mais aussi des hommes de différents bords politiques. Et c'est une vraie étude qu'on pourrait considérer comme assez solide. Mais il y a aussi d'autres types d'expertise qui arrivent alors, de chefs d'entreprise, dont l'objectif est de dire la gauche a été élue pour le plein emploi. Et ça fait totalement écho
à la situation actuelle.
Oui. Absolument. Et d'une certaine manière, quelle est la notion clé à l'époque ? C'est la monnaie. C'est-à-dire que l'emploi doit passer en priorité par rapport à la valeur du franc à l'époque, aujourd'hui la valeur de l'euro d'une certaine manière. Et ces personnes-là disent il faut rouvrir la boîte noire des conventions monétaires, la boîte noire du financement de l'État. Et le financement de l'État est considéré comme clé dans la réouverture de cette boîte noire. Et ce que fait la gauche socialiste, c'est qu'elle ne rouvre pas cette boîte noire. Et d'une certaine manière, les épreuves successives, sédimentées par le temps, ne sont pas non plus remontées. Et dans la continuité, que reste-t-il comme solution pour Pierre Bérégovoy, d'une certaine manière, qui a une décision pragmatique ? C'est d'aller plus loin dans la libéralisation des marchés financiers, d'aller plus loin dans la mise en marché de la dette publique et en somme d'aller l'exporter à l'international, d'aller vendre cette dette socialiste. D'ailleurs, c'est très intéressant, des acteurs du Trésor l'expliquent. Nous sommes allés vendre à des investisseurs américains, japonais, cette dette avec la baguette et le béret qui bénéficiaient d'une mauvaise image parce que à l'étranger, on pouvait même considérer que c'était les marxistes qui étaient arrivés au pouvoir avec les socialistes. Eh bien non, on va exporter cette dette, on va rassurer les investisseurs et on va naturaliser toute cette longue histoire de la mise en marché de la dette publique.
Une dette made in France en quelque sorte.
Absolument.
Mais là, on reste quand même intrigué par la manière dont des gens qui ont été socialisés à l'École nationale d'administration, qui sont là pour servir l'État, qui ont une haute idée de leur mission de haut fonctionnaire, en viennent, par les décisions qu'ils prennent, à affaiblir cette souveraineté financière de l'État, cette souveraineté économique de l'État. On a du mal à comprendre. Alors, est-ce qu'il faut tenter des hypothèses qui nous renverraient précisément à la manière dont ce type d'élite a pu changer dans les années 70 avec des phénomènes nouveaux comme le pantouflage et les allers-retours entre secteur public et secteur privé, la capacité de ces acteurs économiques à sortir de la haute administration pour aller diriger de très grandes entreprises dans lesquelles ils étaient beaucoup mieux payés par ailleurs, et donc à une sorte d'effritement de leur conscience de haut fonctionnaire. Est-ce que c'est une hypothèse qui tient la route ? Est-ce que vous avez pu la vérifier ? Comment expliquer, au fond, non pas encore une fois le fait que ces gens soient réunis autour d'une table pour dire on va décider ça, mais que petit à petit, par petite décision, on en soit arrivé à aller toujours dans le même sens vers ce financement sur les marchés de l'État français.
C'est une excellente question. Effectivement, c'est un point central et alors un point très subtil pour comprendre. Généralement, l'explication qu'on avancerait facilement, aisément, serait de dire l'État a scié la branche sur laquelle il siégeait, l'État s'est sacrifié. Cette hypothèse, elle n'est pas satisfaisante. Pourquoi ? Puisqu'on a toujours, d'une certaine manière, une forme de stratégie de l'État qui est pensée. On pense toujours le rôle et la puissance de l'État. Sauf qu'on le pense dans une structure qui a totalement été transformée. La puissance de l'État, lorsqu'aujourd'hui les acteurs vont sur les marchés internationaux, ils n'ont pas du tout l'impression d'affaiblir la souveraineté de l'État. Au contraire, ils agissent au nom de l'intérêt général, au nom des intérêts souverains de la France, qui doit peser dans cette compétition. Alors se repose la question, comment expliquer ce changement de configuration successif ? Eh bien, c'est l'idée que, touche par touche, on a un projet de souveraineté différent qui s'est stabilisé. Ce projet de souveraineté, il est celui d'un État qui doit, d'une certaine manière, être au service du développement des infrastructures de marché, de la libre initiative privée et de la libre banque. On le voit un peu clairement dans les chapitres qui portent sur les années 60. C'est un nouveau projet technico-politique, un projet alternatif de souveraineté qui va progressivement dominer sur l'autre. Et je pense que là, vraiment, c'est un point majeur de bien voir qu'il n'y a pas d'idée sacrificielle. C'est vraiment au nom du pouvoir, d'une nouvelle forme reconfigurée de pouvoir. Juste sur le pantouflage, vous avez tout à fait raison. C'est aussi la deuxième explication qui est avancée, c'est-à-dire aujourd'hui, les hauts fonctionnaires du Trésor seraient plus proches de la banque et de la finance privée qu'auparavant. Cette hypothèse, elle est assez fragile d'une certaine manière. Pourquoi ? Puisque cette direction du Trésor, je l'ai déjà un peu dit, d'une certaine manière, sur la longueur, elle a toujours été proche des milieux bancaires et financiers. Mais ce qui a changé, c'est la manière dont ces puissances bancaires et financières étaient prises dans un réseau de contraintes ou non. Mais d'une certaine manière, la circulation, le pantouflage, on peut le voir à différentes périodes. Mais ce qui change, c'est lorsqu'un haut fonctionnaire du Trésor partait en banque, il partait généralement dans une banque publique ou dans une banque commerciale, mais qui était soumise à des contraintes vis-à-vis de cette puissance publique. Aujourd'hui, lorsque ce même haut fonctionnaire part dans une banque privée, il part dans une banque, effectivement, qui bénéficie d'une forme plus importante d'autonomie. Et donc, les conséquences de ce pantouflage sont tout à fait différentes, d'une certaine manière. Les conséquences de cette circulation entre élites privées et publiques. Sur le changement des idées, là, je termine, vous aviez raison, effectivement, il y a tout de même un rapport à la connaissance économique qui change aussi. Et ces années d'après-guerre ont été aussi des années d'innovation sur les savoirs économiques, où se développait de façon pratique, sans jamais forcément l'expliciter, une théorie macroéconomique keynésienne, des outils de mesure, comme la comptabilité nationale, un certain nombre d'instruments qui permettaient une autre politique économique et qui s'appuyait sur des savoirs originaux qui aussi se sont effrités. Et ça, ça a été raconté par Bruno Jobert et Bruno Terray lorsqu'ils parlent du tournant néolibéral où on voit que peu à peu, de ces services de prévision économique s'éloignent les personnes qui étaient porteuses de ces savoirs-là.
Alors, il y a une autre dimension dont on n'a pas encore du tout parlé, c'est ce qu'on appelle, d'un mot qui ne veut plus dire grand-chose, la mondialisation. C'est-à-dire que, au fond, cette évolution, elle se passe dans un moment qui voit l'internationalisation de la finance, ou plutôt l'accélération de cette internationalisation, qui voit se mettre en place un certain nombre de règles au plan international, de mécanismes, d'outils, d'institutions qui font que cette libéralisation des marchés se passe sur l'ensemble de la planète, peu à peu. Alors au fond, on est assez vite tenté, d'ailleurs c'est l'explication qu'on nous fournit souvent, d'expliquer le changement que vous venez de décrire, Benjamin Lemoine, par cette fatalité de la mondialisation, c'est-à-dire qu'au fond, l'État n'aurait plus le choix, l'État ne pouvait plus se permettre de se financer comme auparavant, en aimantant vers le trésor tout un tas de quantités assez importantes d'argent, qu'il fallait en passer par les marchés financiers internationaux, qu'il n'y avait pas plus d'autres solutions.
Tout à fait. Cette explication par l'internationalisation, on peut d'une certaine manière l'attribuer à l'économie classique, d'une certaine manière, hein, qui fait que cette contrainte, elle est exogène. Elle échapperait totalement aux politiques ou à toute forme d'explication sociologique. Alors, ce sont des travaux difficiles, mais qui sont en train d'émerger, je pense, en sociologie politique. Je pense aux travaux de Vincent Gaillon sur l'expertise de l'OCDE, une organisation d'expertise économique très importante. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la coopération entre États, c'est précisément ça, sur le plan monétaire et financier, c'est aussi ça qui s'est progressivement effrité d'une certaine manière. Et on pourrait tout à fait rendre compte, en renversant totalement le point de départ, en dire cette internationalisation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce que internationalisation, on peut en avoir différentes formes, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est liée au déficit ou à l'effritement progressif de cette coopération entre États sur ces grandes questions économiques et monétaires, où elles ont été progressivement délégué au marché, à des mécanismes de marché. Donc on pourrait reprendre l'histoire en voyant comment un certain nombre d'États en différents pays ont laissé des mécanismes de marché réguler ces questions qui sont éminemment politiques et au cœur des questions démocratiques.
Mais enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, l'État se trouve encastré, comme vous disiez, encastré dans un réseau d'acteurs économiques au plan national, au plan européen, parce que ça aussi, ça va compter au fil des années de plus en plus, et puis au plan mondial. La question qui se pose, c'est: est-ce qu'il est possible de reprendre des marges de manœuvre politique, de revenir vers une diversification des modes de financement de l'État, non pas nécessairement d'abandonner le financement sur les marchés, ce qui serait peut-être une erreur, mais en tous les cas de ne pas dépendre que des marchés?
Tout à fait. Il y a une forme d'irréversibilité dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter d'un coup toutes les épreuves antérieures qui ont été sédimentées. C'est précisément aussi ça l'alternative de ce récit par rapport au récit qui se base sur une loi. Il suffirait de changer une loi pour venir en arrière. Non. Il faut, ce qui serait intéressant déjà, serait de commencer par mettre le débat, expliciter le débat sur la table, par exemple à l'occasion des présidentielles 2017, et que le débat parte sur la base non pas d'une nostalgie des expériences passées, mais bien de montrer comment elles ont été des expériences critiques qui permettent de revisiter différemment le présent aujourd'hui. Et effectivement, il faudrait réintroduire des formes de pluralité. Alors aujourd'hui, ces questions, elles se posent à l'échelle européenne. Est-ce qu'on peut démocratiquement débattre de la façon dont est organisée et dont les orientations politiques de la Banque Centrale Européenne se décident ? Est-ce qu'on peut collectivement mettre dans un programme politique ce que serait l'équivalent d'un trésor à l'échelle européenne, hein ? Non pas une mutualisation de la dette qui impliquerait une discipline plus forte, mais au contraire, un trésor banquier qui collecterait des ressources à cette échelle européenne, quelles institutions nous pouvons envisager de façon possible qui permettraient d'une certaine manière non pas de réversibiliser la situation d'aujourd'hui, mais du moins de réintroduire un peu de pluralité dans ce débat public qui est strictement verrouillé aujourd'hui. La version qui s'impose sur la dette, il faut le rappeler, c'est aussi la version d'un État dépensier, obèse, qu'il faut absolument réduire, un politique qui serait responsable de cette dette publique par accumulation de déficits publics successifs.
Un État qu'en général on compare en donnant le sentiment de faire de la pédagogie, mais c'est pas de la bonne pédagogie, à un ménage, ou un bon père de famille, ou un mauvais en l'occurrence, puisqu'il dépenserait beaucoup plus d'argent qu'il n'en gagne. Quoi. C'est toujours cette espèce d'analogie qui est très problématique.
Absolument. Et puis il y a une rhétorique politique sur la faillite de l'État. On pense à François Fillon, je suis à la tête d'un État en faillite. Et effectivement, là, on est toujours à la frontière entre une compréhension technique du sujet et la façon dont on a envie de la pousser, de la porter politiquement.
Avec des métaphores qui sont douteuses, parce qu'elles ne correspondent pas à des réalités qui sont complexes.
Absolument.
L'État n'est pas un acteur économique comme les autres.
Et il ne fait pas faillite, il ne liquide pas du jour au lendemain l'ensemble de ses services publics. Il fait par contre défaut sur sa dette, c'est-à-dire qu'il refuse de payer un certain nombre d'engagements. Typiquement, ça c'est un apport du livre, ça fait référence aussi au titre, l'ordre de la dette. Dans quel ordre l'État pense-t-il ses dettes, hein? Aujourd'hui, la crise des dettes souveraines, elle oppose d'une certaine manière deux formes d'engagement de l'État, deux formes de promesses de l'État. D'un côté, cette dette financière, cette dette qu'il doit aux créanciers, et de l'autre, la dette sociale, les engagements de politique publique que l'État a souscrit auprès des citoyens. Et aujourd'hui, ces deux formes de dette, elles sont en opposition. Et si l'État, aujourd'hui, ne fait pas défaut sur sa dette financière, certains acteurs du débat public le disent ainsi, l'État fait défaut en permanence sur sa dette sociale. C'est-à-dire qu'il revisite en permanence ses engagements de politique publique à l'aune, au prisme de cette contrainte du paiement rubis sur l'ongle de la dette financière.
On voit bien que c'est une bataille de conventions au fond, et que là, les sciences sociales, dans leur globalité, sont extrêmement précieuses parce qu'elles viennent remettre en question certains économistes font apparaître comme des catégories qui seraient naturelles, mais qui ne sont que des catégories comptables. Et on pourrait en imaginer d'autres pour objectiver ces faits sociaux qu'on a en face de nous.
Absolument. Alors après, nous ne sommes pas dans un monde d'arbitraire total, et c'est aussi un apport important, c'est-à-dire que la sédimentation de l'histoire, la solidification de ces conventions fait qu'effectivement, on ne peut pas les remettre en cause du jour au lendemain, et on ne vit pas dans un monde de subjectivité totale. Il y a une objectivité de ces phénomènes économiques, mais cette objectivité, on peut en rendre compte avec les sciences sociales. Et en rendant compte de cette objectivité, on rend compte aussi de toutes les alternatives politiques, sociales, économiques qui ont été enfouies, qui ont disparu, et du monde verrouillé dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui.
Voilà, merci beaucoup. On y voit un petit peu plus clair sur ces choses compliquées, mais qui nous concernent tous. La dette, l'ordre de la dette, c'est le titre de votre livre, Benjamin Lemoine. Cette enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché, il paraît aux éditions La Découverte. On trouve toutes les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées, sur le site de France Culture, page où vous pouvez réécouter l'émission et également vous abonner au podcast. Vous pouvez retrouver la programmation de La Suite dans les idées également sur la page Facebook de l'émission. C'était La Suite dans les idées, attaché d'émission Cyril Baer, à la technique Pascal Bénard, à la réalisation Jean-Christophe Francis. C'est Étienne Klein que l'on retrouve dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour la conversation scientifique.